Bon, ben je pense que vous devez déjà tous connaître plus ou moins Raphaël Baroni, puisqu'il suit notre séminaire depuis le début. Enfin, pour lui donner la parole, je rappelle qu'il vient de l'université de Lausanne, qu'il est en train de faire une thèse, là, qui est bientôt terminée, je crois. Enfin, il nous en dira peut-être un petit peu plus. Il travaille avec Jean-Michel Adam et. Il est actuellement en stage au CRAL, donc au Centre de recherche sur les arts et le langage, pour encore quelques mois, depuis un an. J'espère que ça va encore durer un petit peu. Et il a beaucoup travaillé sur la tension narrative et le suspense, et c'est à ce sujet-là qu'il va nous faire sa communication aujourd'hui. Donc, je suis ravi de te céder la parole. Excusez-moi, je précise que contrairement à ce qui était indiqué dans le mail que je vous ai envoyé, l'horaire de la séance, c'est 16h18 et pas 16h118. Hein. Tu n'es pas censé parler 102 heures, mais juste 2 heures. Voilà.
Madame, comme Francis vous l'a dit, donc je viens de l'Université de Lausanne. Le fait que je travaille avec le professeur Jean-Michel Adam devrait pas tellement vous surprendre. Si vous connaissez un peu ces écrits, étant donné que je travaille sur, enfin, que je vais parler aujourd'hui de la tension, de la séquence narrative. Donc, je voudrais aussi remercier Francis parce qu'effectivement, je suis actuellement au bénéfice d'une bourse du Fonds national qui est un peu l'équivalent du CNRS en France, mais qui fournit des bourses, notamment pour partir à l'étranger quand on rédige sa thèse de doctorat. Et donc, je tenais à remercier Francis, auquel je dois en grande partie le fait d'avoir été invité ici pendant une année. Et je te confirme que j'ai une prolongation de ma bourse, donc je reste jusqu'en juillet.
Ah ben bah voilà,
Voilà.
l'année commence bien.
Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire juste quelques mots au sujet de ce séminaire consacré à la narratologie. Et j'avoue que je suis particulièrement bien placé pour apprécier son intérêt, ne serait-ce que pour justifier mes propres recherches, parce que cet intitulé, la narratologie aujourd'hui, présuppose au moins hypothétiquement que la narratologie existe bel et bien en tant que discipline vivante en France. John Peer a déjà insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il fallait aujourd'hui plutôt parler de narratologie au pluriel, et que ces courants multiples et parfois divergents sont principalement actifs dans le monde anglo-saxon et ont progressivement pris leur distance par rapport aux travaux narratologiques classiques de la période structuraliste en France. Dans la deuxième séance de novembre, Philippe Roussin soulignait quant à lui que le débat narratologique se poursuivait maintenant essentiellement dans des revues de langue anglaise et comme le faisait remarquer récemment Marielle Massé, les jeunes narratologues ont pratiquement disparu du milieu académique français. Je fais donc probablement figure de dernier des Mohicans, ce qui, en participant à ce séminaire, et qui, en participant à ce séminaire, aurait trouvé refuge dans une réserve. Cela peut paraître soit exagérément modeste, soit particulièrement présomptueux de m'attribuer une telle étiquette, mais il me semble en effet que traiter de la question de la séquence narrative, non pas dans une perspective historique, mais bien dans l'espoir de faire avancer la question, cela tient pour le moins de la gageure, surtout si l'on songe que ce concept était au cœur de la plupart des travaux structuralistes sur le récit dans les années 60 et 70. Il me semble que traiter de la séquentialité du texte narratif, c'est s'attaquer au cheval de bataille de la version intégriste, radicale, dure des travaux structuralistes. C'est se pencher sur la tradition propienne réinterprétée par Grémas, Courtès, Larivaille, Lévi-Strauss, Brémond, Todorov et j'en passe. C'est aborder des travaux centrés sur ce qui était autrefois défini comme la structure profonde du texte, sur la forme essentialisée de la fabula, que l'on s'imaginait à la fois autonome et immanente, et qui laissait de côté la dimension pragmatique et discursive des textes narratifs. Disons-le d'emblée, si la tradition narratologique anglo-saxonne semble aujourd'hui plus dynamique que celle qui perdure dans l'espace français, c'est probablement en grande partie parce que la sémiotique peircéenne s'est montrée sur le long terme plus efficace que les travaux d'inspiration saussurienne pour traiter le phénomène des structures narratives dérivées des récits. La critique passionnante que nous a donnée Philippe Roussin dans l'avant-dernière séance sur la critique donc du dualisme entre expression et contenu, qui, dans le cadre du récit de fiction, se retrouve dans le dualisme hérité par des formalistes russes entre fable et sujet, ou entre histoire et discours, nous en fournit la preuve. Nous verrons par la suite que pour maintenir cette distinction, qui me paraît tout de même précieuse d'un point de vue heuristique, il est nécessaire de recourir au modèle sémiotique d'Umberto Eco, qui opère précisément au renouvellement de la perspective structuraliste en enrichissant des apports de la sémiotique pircéenne. Nous insisterons en particulier sur le fait que Eco considère qu'une structure textuelle comme la fabula est en interprétant du texte, c'est-à-dire le produit sémiotique issu de la manifestation linéaire d'un texte interprété par un sujet et pourvu de compétences encyclopédiques spécifiques. Nous verrons donc que pour comprendre le phénomène de la séquence narrative aujourd'hui, il faudra donc toujours garder à l'esprit ces différents pôles que sont, d'une part, la trace textuelle, qui n'est qu'un texte potentiel, le lecteur, qui actualise ce texte par l'acte de lecture, la compétence encyclopédique, qui rend possible cette actualisation, les structures narratives, qui sont des interprétants résultant de la rencontre du texte et du lecteur, et qui décrivent une organisation séquentielle du texte au-delà des limites de la phrase. Il me semble qu'une autre cause du dynamisme anglo-saxon tient également à l'orientation plus pragmatique et empiriste de certains courants d'analyse du récit, qui ont fini par se rapprocher de la narratologie et par lui fournir des outils particulièrement performants. Je pense notamment au courant cognitiviste et aux travaux en intelligence artificielle, qui ont permis de redonner une certaine consistance à ces concepts théoriques fondamentaux, mais relativement vagues, dans les théories de la lecture que sont, suivant les terminologies, les compétences encyclopédiques, pour Eco, ou bien les préjugés, pour Gadamer, ou le répertoire, pour Iser, ou l'horizon d'attente, pour Yaus, ou la préfiguration, pour Ricoeur. Ainsi, dans la bibliographie que je vous ai fournie, je soulignerai en particulier les travaux de Bertrand Gervais, qui m'ont été particulièrement utiles et qui intègrent notamment la notion de plan-acte tirée des travaux en intelligence artificielle de Shank et Abelson, et ceux de Brewer, qui, dans une perspective cognitiviste, traite précisément de la question de la tension narrative sous la forme du suspense, de la curiosité et de la surprise. D'autres notions auxquelles je ne ferai pas appel aujourd'hui, mais qui sont d'un intérêt considérable pour la narratologie, qui s'intéresse à la séquentialité du texte, sont les concepts de script et de schéma, qui viennent également des travaux en intelligence artificielle et de la psychologie cognitive. Dans tous les cas, ces approches fournissent des modèles concrets qui peuvent être mis à l'épreuve à travers des tests de résumé ou de mémorisation soumis à des groupes de lecteurs ou par l'intermédiaire de programmes informatiques dont les capacités à désambiguiser une phrase peuvent être évaluées. Loin de fournir des modèles abstraits, immanents, dont le statut ontologique resterait assez vague, la séquence narrative prend dans ses recherches une forme concrète qui débouche soit sur une simulation informatique, soit sur un modèle mental, empiriquement vérifiable, modèle qui vise à définir la nature et la forme des schèmes mentaux qui permettent au lecteur d'appréhender, de reconstruire ou d'anticiper une structure narrative. Il me semble que ce statut ontologique de la séquence en tant que schème mental présupposé qui assure une fonction de médiation de la communication littéraire, même s'il est parfois discutable et est encore discuté, représente néanmoins ce qui fait le plus défaut aux théories narratologiques classiques ou structuralistes, qui considèrent au contraire la séquence comme une propriété immédiate du texte, comme en signifié, dans ce cas l'histoire narrée, placée dans une relation d'équivalence avec un signifiant qui serait le discours narratif. Il faudra donc préciser, ce qui peut être parfois laborieux mais néanmoins nécessaire, les distances que je prends par rapport aux travaux structuralistes, dans le prolongement desquels je situerai malgré tout mes propos. Mais il me semble qu'au bout du compte, je ne dirai pas grand-chose de très nouveau sur la séquence narrative et que j'en reviendrai à une conception assez classique de la structuration des textes narratifs. Il faut voir dans cette présentation qui renonce à l'originalité un certain optimisme épistémologique qui me fait penser que ce n'est pas parce que l'horizon théorique d'hier s'est profondément modifié que nous devons penser que les narratologues qui nous ont précédés ont dit n'importe quoi. Il me semble qu'ils se sont seulement exprimés dans un cadre théorique un peu radical qui visait à libérer l'analyse littéraire du psychologisme lansonien et qui doit être aujourd'hui réadapté à notre vision contemporaine qui appréhende le discours littéraire comme une production sémiotique plus ou moins déterminée par des codes. En revanche, et malgré ce que je viens de désigner comme un certain optimisme épistémologique, il me semble nécessaire de pointer du doigt certaines confusions et même une certaine régression dans la compréhension de la structuration séquentielle du récit entre les positions défendues par les formalistes dans les années 20 et la conception structuraliste dominante qui s'est fondée dans la majeure partie des cas sur une lecture discutable de propre au lieu de poursuivre dans la direction ouverte par la conception dialogique de Bakhtin et de prendre appui sur les réflexions de Tomaszewski sur le récit qui me paraissent très fécondes et largement sous-exploitées. Son article thématique, qui fut traduit en 1965 par Todorov dans son recueil de textes intitulé « Théorie de la littérature », constituera donc le cœur de mon analyse. Quoi qu'il en soit, avant de revenir sur ces différentes questions théoriques, j'essaierai de justifier mon intérêt pour la question de la séquence narrative, et je commencerai par confesser, sincèrement, que je ne pensais pas avoir abordé ce genre de problème théorique en commençant à travailler sur ma thèse. Ce n'est que progressivement, en avançant dans mes recherches, que cette question de la séquentialité du texte s'est imposée à moi. Il n'est donc pas inutile d'opérer un rapide détour sur les circonstances qui m'ont amené à traiter ce sujet, avant d'expliquer comment j'entrevois aujourd'hui la séquence narrative. À l'époque où je travaillais dans le groupe de recherche « Récits, secrets et socialisation » que dirige André Petita à l'Université de Lausanne, j'envisageais de traiter les jeux de bascule entre informations cachées et dévoilement dans l'expression littéraire. Ce qui m'a naturellement conduit à m'intéresser à la question de la coopération textuelle et discursive, notamment par le biais de l'approche sémiotique d'Umberto Eco. Dans ce contexte théorique, retenir stratégiquement une information importante concernant l'action décrite pouvait être interprété comme un jeu sur la coopération entre auteur et lecteur, jeu qui vise à créer un effet de lecture particulier, une incertitude provisoire, de la même manière qu'une implicitation conversationnelle est décrite par Grice comme une transgression ouverte de certaines règles conversationnelles, amenant l'interlocuteur à construire des inférences à partir du discours manifeste. Progressivement, je me suis laissé convaincre que la notion narratologique qui semblait correspondre le mieux à cet effet littéraire qui consiste à retarder l'exposition d'un élément du discours que le lecteur est conduit à attendre ou à anticiper avec impatience, était la tension dramatique, et que pour éviter les confusions avec la notion de drame, je propose de renommer la tension narrative. Or, cette tension narrative, qui est évoquée dans l'article de Tomaszewski, sur lequel je reviendrai, mais également dans les ouvrages sur le récit de Jean-Michel Adam, de Françoise Reva et de Bourneuf et Wallin, que vous retrouvez en bibliographie, me semble avoir été largement sous-évaluée et presque complètement ignorée par les travaux structuralistes des années 60 et 70. Il me semble que la raison pour laquelle la tension narrative peut apparaître comme le parent pauvre de l'analyse narratologique peut s'expliquer de plusieurs manières. D'une part, parce que les œuvres qui exploitent la tension narrative ont généralement été considérées d'emblée comme commerciales et sans valeur, surtout durant la période où la narratologie structuraliste était à son apogée, période qui coïncide avec l'époque durant laquelle le nouveau roman ou l'anti-roman monopolisait la majeure partie du capital culte symbolique attribuées aux œuvres de fiction dans le champ littéraire français. La réticence de Barthes dans SZ à prendre en considération la lecture linéaire et l'assimilation dans le plaisir du texte, du suspense à un striptease, excitant une pulsion voyeuriste adolescente, me semble éloquente à cet égard. D'autre part, c'est peut-être le point le plus important, il me semble que la tension narrative était difficile à traiter sans prendre en considération la participation du lecteur, ce qui, dans les travaux de narratologie classique, était impensable. Il était intéressant de constater à cet égard que la tendance a été le plus souvent au découplage de la question de la tension, considérée comme un phénomène sémantique isolé ou comme un effet ponctuel visant à relever l'intérêt du texte, découplage donc de la tension et de la question de la séquence, qui est considérée comme elle, quant à elle, comme une propriété structurale et fondamentale du texte. De la même manière, on a fini par effacer le fait, pourtant évident du point de vue de l'étymologie, que construire une intrigue consistait précisément à intriguer son lecteur, et que intrigue et séquence narrative sont de parfaits synonymes. Comme je l'ai suggéré à plusieurs reprises au cours de cette longue introduction, le fait que la narratologie contemporaine soit contrainte aujourd'hui d'appréhender les structures narratives en les considérant comme des interprétants abstraits par un lecteur à partir de la manifestation linéaire du texte, me pousse à considérer au contraire que la tension narrative, puisqu'elle présuppose justement un jeu sur la coopération, représente une voie royale pour mieux comprendre comment se structurent les récits. En effet, si nous considérons ces deux espèces, sous-espèces conventionnelles de la tension narrative que je définirai par la suite comme la curiosité et le suspense, il est facile de saisir comment un effet de tension à la réception d'un récit peut être instrumentalisé pour structurer le discours narratif. Dans un article que vous trouvez en bibliographie qui porte sur le suspense au cinéma, Hans Wulff parle d'éléments cataphoriques et anaphoriques du discours. En exemple de cataphore serait par exemple la présentation d'un requin tueur affamé évoluant dans les environs d'une plage peuplée de baigneurs insouciants. Présence qui amène les spectateurs à attendre, généralement avec une certaine inquiétude, une issue qui fonctionne comme un élément anaphorique, par exemple le décès prématuré d'un baigneur qui sert de repas aux squales. Mais il faut préciser qu'une telle anaphore est assez fragile, car l'appétit du requin ne peut être comblé que provisoirement. On attend alors, au terme d'une dangereuse expédition, la mise à mort du requin tueur qui servira de clôture finale au récit, en rétablissant un équilibre durable. La tension définit par conséquent les contours d'une intrigue en créant et en résolvant une instabilité qui se manifeste, phénoménologiquement parlant, par une tension ou une incertitude provisoirement entretenue dans le processus de la lecture linéaire. Du point de vue de la coopération textuelle, la différence entre curiosité et suspense peut alors être définie de la manière suivante. Donc là, je vais donner deux définitions que vous retrouvez dans votre polycopier et que je vais un petit peu commenter. Donc, premièrement, on peut parler d'un effet de suspense quand, face à une situation narrative incertaine, dont on désire impatiemment connaître l'issue, dans le vocabulaire de Eco, on parlerait d'une disjonction de probabilité signalée comme importante, il y a retardement stratégique de la réponse par une forme quelconque de réticence textuelle. Par exemple, fin de chapitre ou d'épisode, péripétie, ralentissement de l'action, etc. Donc une question typique que pourrait se poser un lecteur d'un récit structuré par le suspense serait par exemple « Quelle sera l'issue du conflit ?» ou bien alors « Qui va gagner ?» ou « Le héros va-t-il y arriver ?» ou encore « Le requin va-t-il le manger ?» J'ajouterai une remarque pour signaler une spécificité du suspense littéraire ou du suspense entrevu comme effet de discours. C'est que dans un récit conversationnel, ainsi que l'a montré Laboff, ou dans un fait divers journalistique, il y a généralement un résumé de l'action avant le développement, ce qui s'explique par la nécessité d'éviter la création d'une tension que l'interlocuteur jugerait trop peu coopérative. Imaginons par exemple que nous apprenions qu'un proche a eu un accident de la route et que nous téléphonions à l'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Je pense que si l'infirmier nous racontait en détail et dans l'ordre tous les événements du sauvetage, de l'arrivée aux urgences, de l'anesthésie et de l'opération, avant de nous dire si notre proche s'en est finalement sorti sans trop de dommages, nous serions en droit de penser qu'il coopère très mal et que la nature passionnante de son récit ne compense en rien son manque de pertinence. Il me semble par conséquent que le développement linéaire de l'intrigue, sans ce que Genette appellerait une prolapse, qui aurait pour effet de désamorcer la tension narrative, n'est jugé acceptable que dans un contexte littéraire, dans lequel il devient même un critère positif car il relève l'intérêt du discours. Nous voyons également à travers cet exemple que lorsque le discours colle parfaitement aux événements en adoptant leur chronologie, nous ne sommes pas à une sorte de degré zéro de la représentation de l'action, mais qu'il s'agit bien là, au contraire, d'un travail important du discours en vue de créer un effet spécifique, en l'occurrence, créer du suspense. Le degré zéro de la narration conversationnelle, c'est au contraire quand l'efficacité de l'échange d'informations est maximale, c'est-à-dire quand l'information la plus importante est dévoilée en premier. Or, cette information la plus importante, dans un récit, porte en général sur l'issue des événements et non sur leurs circonstances. Le degré zéro du récit, c'est donc bien le récit antichronologique, et la chronologie n'est pas le récit sans intrigue, mais bien la mise en intrigue du récit productrice de tension dans l'acte de réception. En l'occurrence, cette tension prenant la forme du suspense. Nous allons voir maintenant que la définition de la seconde modalité de la mise en intrigue, qui n'implique pas un développement linéaire de l'action, mais exploite au contraire une énigmatisation de la représentation, est ce que j'appelle donc l'effet de curiosité. Et je dis qu'il y a création d'un effet de curiosité quand on constate que la représentation de l'action est incomplète par rapport à ce qui est nécessaire au lecteur pour que sa compréhension soit optimale. Quand l'incomplétude du discours s'accompagne de l'attente, par pacte de lecture par exemple, d'une clarification que fournira le texte après un certain délai, la curiosité produit l'une des modalités principales de la tension narrative. Dans ce cas, il y a également une forme quelconque de retardement stratégique de la réponse. J'insiste juste sur ce point que je ne vais pas approfondir aujourd'hui du fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait une réponse parce qu'évidemment on a défini globalement la littérature au milieu des années 60 et 70 ou 70 autour de la question justement de l'incomplétude ou du récit qui ne se donne pas comme représentation claire des événements, en mettant plutôt en avant des romans ou des anti-romans comme l'Ulysse de Joyce par exemple, qui sont des effets de lecture qui me semblent très différents, par exemple dans un roman policier dans lequel on donne des circonstances qui sont seulement provisoirement cachées, et qui là mettent en intrigue le récit puisqu'on s'attend à une réponse à l'intérieur des limites du texte, qui structure ce texte. Donc une question typique que pourrait se poser le lecteur d'un récit structuré par la curiosité serait par exemple, qui est l'assassin? Qui l'a fait? Qui l'a fait parce que je pense au whodunit dont parle Hitchcock dans ses entretiens avec Truffaut. Ou encore, qu'est-ce qui s'est passé? Ou encore, comment en est-on arrivé là? L'existence de cette deuxième modalité de la mise en intrigue met en évidence le fait que la séquence narrative définit bien une séquence du texte et pas nécessairement une séquence d'action. C'est l'impatience du lecteur de parvenir au dénouement du récit qui crée la tension et structure le texte, et ce dénouement ne recouvre pas nécessairement le dénouement de l'action. Je chercherai à démontrer à partir de maintenant que cette façon de définir la séquence narrative à partir de tensions d'origine diverses dans le processus de la lecture linéaire n'est pas totalement étrangère aux travaux de Roland Barthes, notamment dans sa fameuse lecture du roman de Balzac Sarrazine, qui offre une esquisse d'une théorie de la lecture des textes littéraires. On retrouve une perspective analogue dans l'ouvrage de Charles Grivel qui porte sur la question de l'intérêt romanesque et dont le corpus, composé de romans populaires de la fin du XIXe siècle, a pour nature de ne pas masquer les enjeux de la mise en intrigue. Je pense que, par ailleurs, cette perspective est au moins implicitement posée dans l'article thématique de Tomaszewski et que, si cet article avait servi de base à l'analyse de la séquentialité du récit au lieu de la définition de la séquence que donne Propp dans la morphologie du conte, il aurait évité certaines confusions fâcheuses. Il me semble que la tendance qui a amené certains narratologues à découpler la question de la séquentialité du récit avec celle de sa mise en intrigue, c'est-à-dire de la configuration des actions par le discours, est particulièrement dommageable. La séquence narrative n'est pas, selon moi, la forme de la structure profonde, essentialisée ou immanente de l'action dans son déroulement chronologique et causal, mais elle relève au contraire toujours d'un effet du discours, et cela, même quand elle est structurée par le suspense, qui implique un développement parallèle de la narration et de l'histoire narrée. Avant de montrer comment Tomaszewski envisage, selon moi, ces deux formes complémentaires de mise en intrigue, j'aimerais dire quelques mots du code herméneutique tel que Barthes le définit dans SZ, qui me semble illustrer les points déjà soulevés. Empruntant une métaphore musicale, Barthes affirme en effet que la mélodie du récit, ce qui chante, ce qui file, se meut par accident, arabesque et retard dirigé, le long d'en devenir intelligible, c'est le code herméneutique, c'est-à-dire, je cite, la suite des énigmes, leur dévoilement suspendu, leur résolution retardée. Face à la grande majorité des travaux narratologiques qui, à la suite de Propp, visent à cerner la structure du récit exclusivement par le biais de l'action d'un personnage, et là je cite Propp, l'action d'un personnage définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l'intrigue, il me semble que le grand mérite de Barthes a été de souligner l'importance dans la structuration du récit, non plus seulement du devenir temporel de l'action représentée, mais également du développement de l'énigme, c'est-à-dire des incertitudes du lecteur, textuellement générées, stratégiquement entretenues et finalement résolues par la narration. Ainsi, il soutient que, et vous trouvez ce texte un petit peu long dans le dossier que je vous ai distribué, soutient que le code herméneutique, en effet, a une fonction, celle-là même que l'on reconnaît avec Jacobson au code poétique. De même que la rime, notamment, structure le poème selon l'attente et le désir du retour, de même, les termes herméneutiques structurent l'énigme selon l'attente et le désir de sa résolution. La dynamique du texte, dès lors qu'elle implique une vérité à déchiffrer, est donc paradoxale. C'est une dynamique statique. Le problème est de maintenir l'énigme dans le vide initial de sa réponse, alors que les phrases pressent le déroulement de l'histoire et ne peuvent s'empêcher de conduire, de déplacer cette histoire. Le code herméneutique exerce une action contraire. Il doit disposer, dans le flux du discours, des retards, chicanes, arrêts, dévoiements. Sa structure est essentiellement réactive. car il oppose à l'avancée inéluctable du langage enjeu échelonné d'arrêt. C'est, entre la question et la réponse, tout un espace dilatoire dont l'emblème pourrait être la réticence, cette figure rhétorique qui interrompt la phrase, la suspend et la dévie. Le point le plus important soulevé par Barthes me semble résider dans le fait que la notion de code herméneutique permet de souligner l'importance des effets de lecture dans la structuration séquentielle du récit. Tout comme Wolff, qui mettait en relation le suspense avec les notions de cataphore et d'anaphore, en effet, ainsi que le précise Barthes, c'est bien parce que les efforts interprétatifs du lecteur se heurtent à la réticence textuelle que le code herméneutique structure le récit à la manière du code poétique, selon l'attente et le désir du retour. Le code herméneutique permet donc de faire le lien entre la structuration du texte et sa réception par le lecteur. Ce lien est d'une importance capitale si l'on songe que c'est son absence qui a longtemps constitué le principal reproche adressé aux travaux des narratologues qui considéraient la séquence comme une propriété immanente des textes. Par exemple, chez Propp, si le méfait constitue une borne initiale de la séquence du conte merveilleux et la réparation sa borne finale, c'est bien parce que chez le lecteur, le méfait provoque l'attente et le désir de la réparation et que cette dernière fonction résout et en quelque sorte annule la précédente. La séquence d'action définie par Propp, si elle n'était pas génératrice de l'attente d'une résolution pour le lecteur, ne serait qu'une succession de fonctions, c'est-à-dire d'événements, qui ne permettraient pas de conférer au texte sa complétude, son unité et sa totalité, qui sont considérées comme des propriétés essentielles de l'intrigue depuis Aristote jusqu'à Ricoeur. On constate en outre, à la lumière du texte de Barthes, que la création de l'attente et de la résolution, qui vise à renforcer l'intérêt du discours et le structurer pour le lecteur, ne passe pas exclusivement par le développement causal des actions des personnages, mais qu'il peut tout aussi bien se situer au niveau de la recherche d'une cohérence interprétative que le texte refuse de livrer d'emblée. Todorov a bien saisi cette nuance dans sa typologie du roman policier, dans laquelle il souligne l'opposition entre la dynamique narrative du roman noir et celle du roman énigme classique. Et là, il y a encore une citation que je vous ai donnée dans votre polycopié. Et il dit « On se rend compte ici qu'il existe deux formes d'intérêt tout à fait différentes. La première peut être appelée la curiosité. Sa marche va de l'effet à la cause. À partir d'un certain effet, un cadavre et certains indices, il faut trouver sa cause, le coupable et ce qui l'a poussé au crime. La deuxième forme est le suspense et l'on va ici de la cause à l'effet. On nous montre d'abord les causes, les données initiales, des gangsters qui préparent de mauvais coups, et notre intérêt est soutenu par l'attente de ce qui va arriver, c'est-à-dire des effets, cadavres, crimes, accrochages. » Les remarques de Todorov portent ici sur l'intérêt romanesque et pas directement sur la question de la séquence narrative, qui a longtemps été considérée du point de vue exclusif du déroulement chronologique et causal de l'action des personnages. Mais si la question de l'intérêt et de la séquentialité sont liées, comme le présuppose la notion de code herméneutique définie par Barthes, on voit se dessiner une nouvelle conception opposant deux types distincts de séquences. En réalité, le seul événement qu'il est possible de considérer, au moins dans un premier temps, comme linéaire, c'est l'acte de lecture qui saisit les événements de l'intrigue selon l'ordre choisi par l'auteur. Nous voyons donc une fois encore que la distinction entre fable et sujet s'avère nécessaire pour poursuivre cette exploration de la structuration séquentielle des discours narratifs. Tomaszewski est l'un des premiers auteurs modernes à établir une distinction claire entre l'ordre des événements figurés dans le discours et l'ordre de leur présentation dans l'œuvre. Distinction qui rappelle néanmoins, ainsi que l'a suggéré John Peer dans ce séminaire, la triade de la rhétorique classique inventio, dispositio et elocutio. La terminologie en ce domaine varie entre les auteurs. Bremond oppose le raconté au racontant, Todorov, l'histoire au discours, Genette, l'histoire au récit. Ces différentes terminologies traitent en fait parfois des distinctions plus profondes que simplement des distinctions de terminologie, avec parfois l'émergence de sous-distinctions débouchant sur des modèles ternaires ou quaternaires. La distinction de ces différents modèles a été donc très largement discutée dans l'article de John Peer qui vient de se paraître, sauf erreur, dans cette revue narratologienne. Toujours est-il que Brémond, dans Logique du récit, souligne que toutes les analyses structurales postulent au moins la distinction entre deux plans de structuration du récit, correspondant, dans la terminologie de Grémas, l'un au niveau immanent des structures narratives, l'autre au niveau apparent des structures linguistiques. Pour Brémond, la séquence en triade déclencheur, passage à l'acte, résultat, relève donc naturellement du niveau immanent des structures narratives, et c'est aussi le cas du programme narratif défini par Grémas comme le parcours conjonctif d'un sujet en quête d'un objet. Programme narratif qui définit également une séquence du récit. On constate que, au passage que l'un et l'autre définissent la séquence du point de vue unique du devenir de l'action d'un agent et non de celui d'une tension dans la lecture. Quoi qu'il en soit, face à la grande hétérogénéité des terminologies ultérieures, il me semble pratique de conserver malgré tout cette distinction binaire ainsi que les termes de fable ou fabula et de sujet que propose Tomaszewski. Car c'est à peu près ceux retenus par Umberto Eco, et nous verrons que cette distinction nous servira à souligner les nuances entre l'intrigue configurée par le suspense et l'intrigue configurée par la curiosité. La comparaison entre Tomaszewski et Eco nous permettra d'actualiser ces notions en fonction des avancées de la sémiotique textuelle, mais elle fera également apparaître chez Eco certaines divergences dans l'emploi des termes. Divergence qui nous semble réduire la portée originelle des propositions de Tomaszewski, notamment au niveau du concept d'intrigue. Donc, pour Tomaszewski, la fable représente l'ensemble des événements liés entre eux qui nous sont communiqués au cours de l'œuvre. Elle s'oppose au sujet qui est bien constitué par les mêmes événements, mais qui respecte leur ordre d'apparition dans l'œuvre et la suite des informations qui nous les désignent. Tomaszewski ajoute en note ce commentaire « Bref, la fable, c'est ce qui s'est effectivement passé. Le sujet, c'est comment le lecteur en a pris connaissance. » Eco, quant à lui, donne de la fabula la définition suivante. « Tout le cours des événements décrits par le récit peut être résumé par une série de macro-propositions, le squelette de l'histoire que nous appellerons fabula, en établissant ainsi un niveau successif du texte, dérivé de et non identifiable à la manifestation linéaire. » Plus loin, il ajoute « Après avoir actualisé le niveau discursif, le lecteur est en mesure de synthétiser des portions entières de discours à travers une série de macro-propositions. Dans la perspective sémiotique de Eco, la fabula représente donc un interprétant dérivé du texte par le lecteur. Il ne s'agit donc plus d'une naïve distinction entre un fond événementiel et une forme, agencement de ces événements par le discours, qui poserait la question de la dérivation dans le sens inverse, et supposerait une relative autonomie du premier vis-à-vis du second, mais bien, du point de vue de la réception, de la mise en évidence d'un lien sémiosique s'inscrivant dans une chaîne potentiellement infinie d'interprétants, dont l'origine se trouve dans la manifestation linéaire du texte. Si nous restons dans la perspective de la sémiotique pircéenne, du point de vue de la production du texte, le passage d'une fable imaginée par l'auteur, ou de la construction d'un monde pour Eco, ou de l'inventio pour la rhétorique classique, à l'écriture proprement dite, qui nécessite un agencement des faits plus ou moins libre, n'est pas davantage le passage d'un fond à une forme, il s'agit plutôt de la conversion d'un noyau textuel, qui peut, à un certain niveau d'élaboration, correspondre à la manière dont l'auteur se représente globalement la fable dans son développement chronologique et causal, à un autre texte rendu plus ou moins définitif par le processus éditorial. Le concept d'expansion sémémique utilisé par Eco désigne donc ce processus dynamique, potentiellement illimité, de la chaîne des interprétants qui ne prend fin du côté de la production du texte littéraire qu'au moment où le texte est publié. Cette chaîne reprenant son cours au moment de sa réception dans la conscience des lecteurs qui ne cesse de poursuivre l'interprétation de l'œuvre dans des directions plus ou moins déterminées par le texte. Ce qu'il s'agit de définir, ce sont les propriétés de cet interprétant particulier, la fable ou fabula, qui représente chez Eco le schéma fondamental de la narration, la logique des actions et la syntaxe des personnages, le cours des événements ordonnés temporellement. Ces niveaux successifs du texte, que l'on peut rattacher à la capacité cognitive des lecteurs de produire des résumés de narration et de mémoriser des textes, dépend essentiellement de compétences encyclopédiques que l'on suppose très largement partagées. Eco, sur la base d'études menées dans le cadre des recherches en psychologie cognitive, affirme ainsi que les textes empiriques sur les capacités moyennes de résumer en texte nous disent que la construction des macro-propositions se manifeste comme statistiquement homogène. Le fait que la communication littéraire, malgré les inévitables conflits d'interprétation, soit néanmoins possible, le fait, Barthes dirait que le texte est au moins partiellement lisible, le fait que les œuvres, en dépit des inévitables imprécisions que cela entraîne, soient globalement traduisibles d'une langue à l'autre, ou d'un système sémiotique à un autre, que des liens entre diverses variantes d'une même fable, le petit chaperon rouge, les versions de Grimm et de Perrault par exemple, puissent occasionnellement être perçus, nous indique que ce stade particulier du processus interprétatif, en soi illimité, qui correspond grossièrement à la compréhension de l'action figurée dans son déroulement chronologique et causal, n'est généralement pas aussi relatif qu'il a pu paraître. J'ai donc redéfini, à la suite d'Echo, le concept de fable comme un interprétant dérivé du texte, dont les contours sont relativement bien définis en fonction des compétences fondamentales partagées entre auteur et lecteur, donc des compétences sur la sémantique de l'action partagées entre auteur et lecteur. À ce niveau, Tomaszewski introduit une notion qui définit, donc au niveau de la fable, une forme de configuration supplémentaire qui se superpose au simple déroulement chronologique et causal des événements, donc la succession des motifs, et qui permet d'en saisir l'unité. Et là, je cite, « Le développement de l'action, précise-t-il, l'ensemble des motifs qui le caractérisent, s'appelle une intrigue. La composition de l'intrigue fait intervenir de nouveaux concepts, tels que nœud, péripétie et dénouement, qui se superposent aux motifs pour définir les grandes lignes de leur développement. » Je cite de nouveau Tomaszewski, vous avez toutes ces, sauf erreur, presque toutes, en tout cas, citations dans votre polycopié. L'ensemble des motifs qui violent l'immobilité de la situation initiale et qui entament l'action s'appelle le nœud. Habituellement, le nœud détermine tout le déroulement de la fable et l'intrigue serait réduite aux variations des motifs principaux introduits par le nœud. Ces variations s'appellent des péripéties. Le passage d'une situation à une autre. On pourrait dire, en termes linguistiques, qu'au niveau de la fable, les motifs définissent en lexique et l'intrigue une syntaxe. D'emblée, l'intrigue est associée également à la sémantique du conflit. Le développement de l'intrigue, ou, dans le cas d'un groupement complexe des personnages, le développement des intrigues parallèles, amène soit la disparition du conflit, soit la création de nouveaux conflits. Habituellement, la fin de la fable est représentée par une situation où les conflits sont supprimés et les intérêts sont réconciliés. Le conflit est un type d'action qui convient en effet particulièrement bien pour mettre en évidence la manière dont on peut appréhender l'unité de la fable par le biais d'une sémantique de l'action. Il possède la propriété de définir une situation interactive instable qui suscite l'attente chez le lecteur d'un résultat, dont l'issue peut sembler incertaine, mais dont le terme paraît inévitable. Et là, je cite encore Tomaszewski. La situation de conflit suscite un mouvement dramatique parce qu'une coexistence prolongée de deux principes opposés n'est pas possible et que l'un des deux devra l'emporter. Au contraire, la situation de réconciliation n'entraîne pas un nouveau mouvement, n'éveille pas l'attente du lecteur. C'est pourquoi une telle situation apparaît dans le final et elle s'appelle dénouement. Je souligne au passage le fait que, tout comme Barthes pour le code herméneutique, Tomaszewski conçoit d'emblée l'intrigue dans son rapport avec les attentes du lecteur. Il précise en effet que si la résolution du conflit correspond au dénouement de l'intrigue, c'est parce que la situation de réconciliation n'éveille pas l'attente du lecteur. Par ailleurs, la décision de caractériser le développement de l'intrigue par les différentes étapes marquant l'évolution d'un conflit, n'est idéologiquement pas innocente pour Tomaszewski. Elle dépend de l'arrière-plan marxiste de son analyse formelle, ainsi que le révèle l'homologie qu'il relève entre le matérialisme dialectique de l'histoire, qui met en scène la lutte des classes, et le contenu de la fable, qui met en scène la lutte entre les personnages. Il dit ainsi, on peut caractériser le développement de la fable comme le passage d'une situation à une autre, chaque situation étant caractérisée par le conflit des intérêts, par la lutte entre les personnages. Le développement dialectique de la fable est analogue au développement du processus social et historique, qui représente chaque nouveau stade historique comme le résultat du conflit des classes sociales au stade précédent, et en même temps comme le champ où se heurtent les intérêts des groupes sociaux constituant le régime social du moment. Cette appréhension de l'action narrative par la thématique du conflit n'est pas propre seulement à l'approche marxiste de Tomaszewski. On retrouve cette tendance dans les analyses de Charles Grivel sur la production d'intérêt romanesque, qui met en relation le conflit ou la lutte avec la négativité du malheur. Pour Grivel, en effet, il n'y a de récit que de l'échec, du conflit, de la lutte. Le malheur est le disciple. Plus loin, il ajoute que le roman soit drame, constitution puis réduction de l'obstacle, que cet obstacle soit représenté par un acte personnel de l'agent négatif, signifie que le roman donne nécessairement le conflit en spectacle. Il y a conflit pour qu'il y ait malheur. Pour Grivel, la thématique du conflit ne se justifie pas par une fonctionnalité romanesque qui consisterait à éclairer les conflits sociaux sous-jacents, mais uniquement par la nécessité de produire un discours intéressant. Pour lui, le malheur est le disciple. Au contraire, sous le couvert du démenti qui illustre la lutte ou le conflit, Grivel prétend que le roman, au moins dans le corpus étudié, donc qui se situe entre 1870 et 1880, viendrait en fait confirmer l'état idéologique, c'est-à-dire l'image élaborée par la classe dominante et généralisée par elle pour dérober l'état de fait. Il considère donc qu'il est faux de déclarer que le roman reflète ou réfracte les rapports conflictuels présents dans la société. Quelle que soit la signification idéologique du conflit, nous retiendrons le fait que ce dernier représente en tout cas une interaction qui possède la double propriété de renforcer l'intérêt du discours narratif tout en définissant les contours de l'intrigue par son instabilité éphémère. Pour ma part, je ne pense pas que la production de l'intérêt romanesque et la configuration de l'intrigue dépendent uniquement de la narration d'actions de type conflictuel. Pour Grémas, par exemple, le programme narratif se résume plutôt sur la base d'une quête. Toute transgression d'une routine, par l'instabilité qu'elle produit, peut servir d'embrayage à une narration, car nous sommes poussés à nous interroger sur la manière dont l'équilibre sera rétabli. Cela n'implique nullement que cette transgression soit nécessairement malheureuse ou qu'elle débouche automatiquement sur un conflit. Cela peut être le fait de gagner à la loterie, par exemple, ou, dans un conte, de se voir proposer la réalisation d'un vœu. Pour le courant cognitiviste, la théorie du schéma insiste sur la fonction structurante de l'action intentionnelle, incertaine et planifiée, et non uniquement sur la dynamique conflictuelle. Un but difficile à atteindre peut suffire à produire une attente chez le lecteur qui est amené à se demander si le but sera finalement atteint ou si l'agent échouera dans sa tentative. Il s'agit donc, somme toute, d'interpréter la notion de conflit comme un cas particulier, illustrant un type d'action susceptible de se développer en intrigue et de produire une certaine tension à la lecture. Pour Tomaszewski, la tension dramatique est une notion qui se rattache directement à la configuration de la fable par une intrigue, les conflits entre les personnages servant une nouvelle fois à illustrer ce trait du récit. Donc là, je suis de nouveau Tomaszewski. Plus les conflits qui caractérisent la situation sont complexes, et plus les intérêts des personnages opposés, plus la situation est tendue. La tension dramatique s'accroît au fur et à mesure que le renversement de la situation approche. Cette tension est obtenue habituellement par la préparation de ce renversement. Ainsi, dans le roman d'aventure stéréotypé, les adversaires qui veulent la mort du héros ont toujours le dessus. Mais à la dernière minute, quand cette mort devient imminente, le héros est soudain libéré et les machinations s'écroulent. La tension augmente grâce à la préparation. La tension arrive à son point culminant avant le dénouement. Ce point culminant est habituellement désigné par le mot allemand « Spannung ». Une fois encore, nous voyons que l'intrigue et la tension dramatique sont des concepts que Tomaszewski situe sur un même plan, celui de la fable. Elle configure les relations entre les personnages dans les révolutions chronologiques et causales. La tension dramatique est illustré ici par une incertitude concernant le destin d'un héros combattant des adversaires. Elle culmine quand sa victoire apparaît la plus improbable, juste avant le dénouement du conflit. Dans la suite de son article, Tomaszewski va cependant s'intéresser également aux relations plus ou moins coopératives qu'entretiennent l'auteur et son lecteur en examinant la manière dont se structure le sujet. En mettant en évidence les diverses formes de distorsion pouvant intervenir entre l'ordre des événements qui composent la fable et leur présentation par le sujet, Tomaszewski suggère l'existence d'une deuxième forme de structuration du récit qui tient compte de la disposition du matériau narratif. Et qui oppose cette fois début et final. Ces différents moments du texte ne recoupant pas nécessairement la structuration de la fable en nœuds et dénouements. Ainsi, il dit, du point de vue de la disposition du matériau narratif, le commencement de la narration s'appelle début, la fin finale. Le début peut ne contenir ni l'exposition ni le nœud. De la même manière, le final peut ne pas coïncider avec le dénouement. Tomaszewski relève à ce niveau d'analyse les débuts ex abrupto, qui retardent l'exposition de l'état initial et du nœud, différents effets d'inversion temporelle, qu'il appelle Vorgeschichte et Nachgeschichte, ainsi que la possibilité de voir un ensemble complexe de secrets entraver la compréhension des actions représentées, ces diverses figures discursives qui seront reprises plus tard par Genette sous les termes de prolepse, d'analepse, de paralepse, etc. Ce développement de l'article de Tomaszewski démontre l'intérêt du formaliste pour les questions qui relèvent directement du roman en tant que discours et non uniquement de la forme de l'histoire narrée, la fable, comme ce fut le cas de Propp et d'une partie des narratologues structuralistes après lui. Cette différence est fondamentale car elle évite de gommer un niveau supplémentaire de structuration du récit. À travers les exemples de distorsion relevés par Tomaszewski entre la forme des événements narrés et celle de leur présentation discursive, nous voyons progressivement s'esquisser une nouvelle forme de structuration du récit qui met en avant le travail du lecteur pour recomposer l'enchaînement chronologique et causal des événements relatés et le jeu complexe d'énigmes et de secrets que le texte oppose à ses efforts. Là, il y a une citation encore un peu longue de Tomaszewski que vous retrouvez dans votre polycopié. Il dit « Mais parfois, après avoir décrit un événement que nous ne savons pas situer dans le schéma général, l'auteur l'explique par une exposition, c'est-à-dire un récit sur ce qui a été déjà raconté. Cette transposition de l'exposition représente un cas particulier de déformation temporelle dans le déroulement de la fable. Ce retard de l'exposition peut se prolonger jusqu'à la fin de l'exposé. Tout au long du récit, le lecteur est maintenu dans l'ignorance de certains détails nécessaires à la compréhension de l'action. Cette circonstance ignorée nous est communiquée dans le dénouement. Le dénouement, qui inclut des éléments de l'exposition et qui est comme l'éclairage en retour de toutes les péripéties connues depuis l'exposé précédent, s'appelle dénouement régressif. Tomaszewski précise donc que l'auteur peut décrire un événement que nous ne savons pas situer dans le schéma général et que le lecteur est maintenu dans l'ignorance de certains détails nécessaires à la compréhension de l'action. La transposition ou le retard de l'exposition, en débouchant sur un dénouement régressif, semble dès lors structurer le récit selon une logique rétrospective qui n'est plus celle du développement dramatique et incertain d'une action, mais d'une énigme suscitant la curiosité du lecteur et dont la solution serait fournie par cette exposition retardée. Pour exprimer le travail du texte visant à retarder l'exposition, Tomaszewski fait appel à la notion de secret. Ce retard de l'exposition, dit-il, est habituellement introduit comme un ensemble complexe de secrets. Ces secrets peuvent dominer la narration entière ou n'embrasser que certains motifs. Si les ressources du secret mettent l'accent sur les moyens textuels mis à contribution pour tenir en haleine le lecteur, il faut en revanche parler d'énigmes ou de curiosité si l'on se place du point de vue de la réception, de l'effet produit. Ce rôle fondamental que joue l'énigme dans la production de l'intérêt romanesque a été commenté également par Charles Grivel. Il dit « Le récit est énigme. Il se constitue comme dérangement de la communication de l'information seconde. Le démenti n'intéresse qu'énigmatiser. Le lecteur assiste au brouillage du drame Il est placé devant un événement, un comportement, etc., dont le sens lui échappe et dont les conséquences lui demeurent cachées. Le démenti suppose l'énigme, n'est opérant qu'en tant qu'énigme. L'innovation, en effet, n'est intéressante que dans la mesure où elle est rendue mystérieuse. Une information non probable n'est en soi ni intéressante ni étonnante. Autrement dit, la rupture de l'ordre archétypal n'est efficace, c'est-à-dire produit le désir de lire et retient le lecteur à sa lecture, qu'à partir du moment où elle ouvre obscurément sur cet ordre même. J'ajouterai pour ma part le fait que l'énigme, en suscitant un questionnement chez le lecteur, contient également la promesse d'une réponse, du moins quand le contrat de lecture du récit en question présuppose une fabula fermée, dans laquelle le lecteur est en droit de supposer que ses hypothèses pourront être textuellement vérifiées ou infirmées. En d'autres termes, l'énigme constitue la borne initiale d'une séquence du texte assimilable au nœud de la fable, la séquence à laquelle elle donne lieu, exprimant non plus la totalité et l'unité d'une action, mais celle d'un discours. Pour souligner cette fonction structurante de l'énigme et du dénouement régressif, et pour la mettre en parallèle avec la configuration de la fable, je prendrai la liberté de parler de mise en intrigue du sujet. L'usage du concept d'intrigue appliqué au sujet n'est peut-être pas aussi aventureux qu'il n'y paraît. En effet, Eco va jusqu'à substituer le terme d'intrigue à celui de sujet. Pour illustrer les deux niveaux de structuration du récit mis en évidence par Tomaszewski. Dans les six promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, qui a été écrit donc un peu plus tard que Lector in Fabula et dans lequel Eco s'exprime un petit peu différemment sur ce sujet, il dit « Il est bon de rappeler un thème fondamental de toutes les théories modernes de la narrativité. Ce que les formalistes russes appelaient la différence entre fabula et sujet, et que nous traduirons par fabula et intrigue. » Il me semble malgré tout que Eco perd dans cette traduction le sens original que Tomaszewski réservait au terme intrigue. Il me semble beaucoup plus productif de conserver les termes originaux de fable et de sujet, et de préserver à celui d'intrigue le sens d'une configuration permettant de structurer aussi bien les événements relatés que leur présentation, qui peut être provisoirement énigmatisée. Lorsque Eco assimile l'intrigue au sujet, il réduit le rôle de la mise en intrigue à la substitution d'un ordre linéaire, celui de l'histoire racontée, par un autre, celui du récit racontant. Il s'agit au contraire de souligner cette opération de médiation assurée par la mise en intrigue qui ajoute à la linéarité du texte ou à celle des événements racontés par le texte certaines propriétés telles que la plupart des lecteurs sont capables d'évaluer la complétude d'un récit à un moment quelconque de son déroulement. Précisons encore que, pour Eco, l'ordre de présentation des événements qu'il désigne par l'intrigue et qui correspondrait au sujet dans la terminologie de Tomaszewski n'est pas exactement identifiable à l'expression discursive, qui relève selon lui d'un troisième niveau, et là je pense que certainement que Eco reprend la triade de la rhétorique classique entre inventio, dispositio et locutio, et il dit « Fabula et intrigue ne sont pas une question de langage, ce sont des structures presque toujours traduisibles en un autre système sémiotique. » Et je peux d'ailleurs raconter la même fabula que l'Odyssée, organisée selon la même intrigue, au moyen d'une paraphrase linguistique, ou bien par un film ou une BD, car même ces deux systèmes sémiotiques comportent des signaux d'analepse. Dans un texte narratif, l'intrigue peut manquer, mais jamais la fabula et le discours. La fabula du petit chaperon rouge est parvenue jusqu'à nos jours par des discours divers, celui de Grimm, de Perrault ou de notre mère. Donc pour Eco, il y a ces trois niveaux, l'intrigue correspondant en gros à l'arrangement des événements selon le discours sans être assimilable au discours lui-même. À mon avis, conserver l'identité entre sujet et expression discursive, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir à distinguer entre sujet et discours, ou entre intrigue et discours, enfin entre intrigue mais dans le sens que donne Tomaszewski. puisque l'ordre linéaire du sujet est par définition celui du texte. Dans l'exemple cité par Eco, on dirait simplement que les différents discours envisagés, par exemple le poème épique, la bande dessinée, le film, la paraphrase, la version d'un conte, présentent des événements fictifs apparentés dans un ordre semblable. Conserver l'identité entre sujet et expression discursive de la situation narrative, c'est permettre d'intégrer à ce niveau d'analyse, comme le fait d'ailleurs Tomaszewski, le retardement de l'exposition et le dénouement régressif, c'est-à-dire la question de la clarté provisoirement réduite du discours narratif, et pas seulement les effets de prolepse et d'analepse. Il me semble d'ailleurs que la fonction pragmatique fondamentale des prolepses et des analepses consiste précisément à produire chez le lecteur de la curiosité, un brouillage relatif ou un éclaircissement retardé de la fable, fonction qui s'intègre à une stratégie globale de mise en intrigue du discours par l'énigme. Dans son analyse de Sylvie, que l'on trouve dans les 6 promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, Eco souligne d'ailleurs l'effet de brume qui résulte de l'enchevêtrement complexe des prolepses et des analepses qui caractérise le roman de Nerval. En l'occurrence, la spécificité de ce discours romanesque, c'est de laisser le soin aux spécialistes de recomposer une fabula cohérente et de ne pas chercher à dissiper, au terme de l'œuvre, par un dénouement régressif, ce brouillard qui vise à un effet plus troublant que structurant. On peut essayer de résumer synthétiquement les nombreuses propositions de Tomaszewski que je viens d'évoquer, concernant la forme de la fable, du sujet et de l'intrigue. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le tableau que vous trouvez dans le polycopier, que je vous ai distribué, que je vais rapidement commenter. Dans la première partie, on voit qu'il s'agit de mettre en évidence la mise en intrigue de la fable. Pour Tomaszewski, l'intrigue, telle qu'il l'a définie strictement, consiste au développement qui fait passe d'une situation initiale à une situation finale, à travers un nœud, des péripéties et un dénouement, qui sont liées à une interaction conflictuelle, qui crée l'attente du terme de cette interaction instable, et qui est donc liée à ce qu'il appelle la tension dramatique. Cette tension augmentant à mesure que diminue la probabilité que l'issue souhaitée soit atteinte au cours des péripéties, et cette tension étant réduite lors du dénouement, qui substitue une situation de réconciliation à une situation conflictuelle. Il évoque lui aussi, comme le fait d'ailleurs Eco, la possibilité que la fable soit présenté directement. Il parle d'exposition directe, ce que moi je pourrais évoquer comme étant une fable présentée sans mise en intrigue du sujet, dans laquelle donc le début correspond effectivement à la situation initiale ou au nœud. Les événements sont présentés directement et complètement, et la situation finale correspond à la fin de l'histoire. Donc les événements seraient ici, si l'on utilise des termes peut-être plus empruntés à la coopération, au principe de coopération de Grice, on dirait que les événements sont présentés selon leur déroulement chronologique avec clarté et complétude en fonction des connaissances supposées du lecteur. En revanche, il me semble que Tomaszewski évoque également la possibilité, sans peut-être le dire directement, de mise en intrigue du sujet, qui consiste en une distorsion entre l'ordre d'exposition des événements ou une diminution de leur clarté, puisqu'il évoque également la possibilité d'énigmatisation du discours ou de secret, de jeu de secret entre auteur et lecteur. Et dans cette perspective, alors, on voit que le début ne correspond pas nécessairement avec le nœud ou la situation initiale. Là, peut-être que j'aurais dû séparer le tableau pour éviter de créer des confusions. Mais disons, ce qui le récit ou nourrait l'intrigue du sujet serait effectivement l'exposition énigmatique ou retardée, ou le jeu de secret. Et le dénouement, alors le seul terme, disons, qui me permet véritablement de dire qu'implicitement Tomaszewski évoquait l'idée d'une intrigue du sujet, c'est l'idée de dénouement régressif qu'il définit comme étant effectivement ce qui dénoue le récit pour le lecteur. Et donc ici, il y aurait quelque chose qu'il n'est pas non plus précisé chez Tomaszewski, mais que je pourrais appeler tension interprétative. Le lecteur est maintenu dans l'ignorance de certains détails qui seront nécessaires à sa compréhension de l'action qui se déroule ou s'est déjà déroulée, ce qui suscite sa curiosité. Et le texte fournit donc un éclairage en retour sur les événements ignorés ou énigmatisés. Je pense que maintenant il est clair que ce que je désignais au début de cet exposé comme étant la tension narrative est pour moi la combinaison de la tension dramatique ou de la tension interprétative, qui sont deux formes de tension de la lecture qui mettent en jeu une lecture linéaire, qu'on suppose au moins hypothétiquement linéaire lors d'une première lecture, et qui seraient aussi liés à des phénomènes de mise en intrigue et de structuration des actions ou de la représentation des actions. Ce tableau est approximatif car il souffre de la méthode d'exposition de Tomaszewski, qui introduit dans un court article un nombre considérable de concepts sans toujours clarifier leurs appellations et désigner avec précision leur situation par rapport à l'ensemble des notions présentées. Donc pour le compléter, j'ai pas seulement ajouté le concept de mise en intrigue du sujet, mais j'ai également pris la liberté d'introduire la notion de tension interprétative. On voit que derrière tension interprétative, j'essaye d'évoquer le code herméneutique de Barthes, qui peut-être m'autorise à parler ici de tension interprétative. Et donc ça, pour souligner ce cas particulier dans lequel une certaine configuration du sujet provoque une incertitude dans la lecture, l'attente d'une explication concernant des événements présentés incomplètement ou de manière énigmatique. Cette incertitude produit un effet tensif similaire, mais qui ne me semble pas, d'un point de vue des compétences du lecteur, exactement identique à celui qui dérive d'une situation dramatique de conflit qui repose sur l'attente plus ou moins angoissée de l'issue d'un événement. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit bien d'une tension fondée sur une anticipation du texte, teintée d'incertitude, mais la tension dramatique ne relève pas uniquement d'une stratégie discursive portant sur la livraison de l'information. Elle est en quelque sorte d'abord inhérente aux événements racontés, en tant que situation interactive incertaine dont la tension est partiellement précodée à des degrés divers dans l'encyclopédie du lecteur. Dans ce dernier cas, ce qui relève à proprement parler d'un effet du discours narratif consiste en la diminution intentionnelle de la coopération entre narrateur et lecteur, qui ne vise plus une efficacité maximale dans l'échange d'informations, ce qui se manifeste au niveau des structures textuelles, ainsi que je l'ai déjà dit, par l'absence d'un résumé synthétique de l'action au début du texte, qui neutraliserait par avance la tension inhérente au développement progressif du récit. L'une et l'autre de ces mises en intrigue relèvent donc de stratégies narratives différentes, reposant soit sur la sélection d'événements instables, éventuellement de type conflictuel, mis en scène de manière claire mais progressive, soit sur un obscurcissement volontaire de la représentation produisant un effet de curiosité. Il convient de remarquer que les situations narratives dans lesquelles le sujet épouse fidèlement l'ordre de la fable sont relativement fréquentes. Tomaszewski signale ainsi que, dans le cas le plus simple, nous avons affaire à une exposition directe. Echo mentionne lui aussi des récits appelés « formes simples », tels que les fables où l'on a seulement la fabula. Le petit chaperon rouge est de cela. Il commence avec la fillette qui sort de la maison pour s'aventurer dans le bois et finit avec la mort du loup et le retour de la fillette chez elle. Le fait que, dans l'univers des contes merveilleux, le retardement de l'exposition représente un cas relativement rare explique probablement la raison pour laquelle Propp ne s'est intéressé qu'à la séquentialité ou à la mise en intrigue de la fable et non à celle du sujet. Au contraire, s'il avait travaillé sur un corpus d'histoires drôles, de devinettes ou de romans policiers, il me semble qu'il aurait probablement été conduit à rechercher sa définition de la séquence narrative du côté des jeux sur la livraison de l'information. On peut supposer que la place prépondérante donnée par les analyses narratologiques à la définition propienne de la séquence narrative a eu pour conséquence de laisser dans l'ombre cette autre forme de structuration du récit esquissée par Tomaszewski qui implique une mise en intrigue du sujet. Cette séquentialité me semble pourtant d'une importance capitale dans l'économie du discours narratif, surtout quand la fable est moins dramatique, quand le récit s'éloigne du roman d'aventure stéréotypé, dominé par la sémantique du conflit entre bon et méchant. Il me semble possible de poser l'hypothèse que, dans les cas où les événements racontés sont peu dramatiques, la mise en intrigue du sujet peut occasionnellement prendre le relais pour soutenir l'intérêt du discours narratif et pour le structurer. Par exemple, Todorov, quand il parle de la différence entre... qu'il fait une typologie du roman policier, il met en évidence le fait que dans le roman à énigme classique, il ne se passe rien. Et une loi du genre postule, par exemple, que les enquêteurs sont invulnérables et ne font qu'interpréter les événements. Donc là, on voit par exemple le cas où on aurait une mise en intrigue qui serait entièrement régie par la mise en intrigue du sujet. Mais bon, là, peut-être que je tiens à préciser, j'arrive bientôt vers la conclusion, que j'ai donné une version très caricaturale, en fait, de la manière dont je conçois les choses, parce qu'il est évident que, par exemple, dans le cas du roman policier, comme le parcours du personnage principal épouse la logique de la fable, il est parfois assez difficile, finalement, de faire la différence entre ces deux formes de séquentialité du texte à partir du moment où, par exemple, et d'ailleurs c'est aussi signalé dans l'article de Tomaszewski, le jeu des secrets peut aussi être celui que se posent les personnages, et à ce moment-là on retrouve un élément qui tend vers un récit dans lequel donc l'énigme est aussi celle donc dans lequel le mouvement du récit est le même que celui des personnages. Bon, d'autre part, et j'ai pas abordé ceci, je pensais peut-être le faire, mais je voulais plutôt privilégier le fait d'avoir une discussion aussi longue que possible, parce que pour moi c'est un cas un peu unique dans le parcours d'écriture de ma thèse, de pouvoir confronter un peu mes idées dont je suis même pas capable de dire si elles sont très originales ou très, très banales, donc j'espère que vous allez m'aider à le savoir. En revanche, ce que je ne mentionne pas, et c'est un peu coupable, c'est le fait que cette idée aussi de mise en intrigue du sujet n'est pas complètement passée inaperçue du côté de l'analyse de la linguistique textuelle, puisque ce qui correspond grossièrement à la... Et peut-être que c'est dans le plan, mais je l'avais retiré du mien, mais je crois que je vous ai laissé ceci en dernière page, voilà. C'est que, vous trouvez par exemple chez mon directeur de thèse, que je cite volontiers, dans la séquence explicative, par exemple, donc il a écrit ce livre qui met en évidence différents types de séquentialité du texte et dans lequel, à côté de la séquence narrative, se trouve aussi exposée la séquence descriptive, la séquence dialogique. Et il y a notamment la séquence explicative qui, finalement, recouvre assez précisément ce que j'essaie de définir par le terme de mise en intrigue du sujet, puisqu'il présente ce type de séquence qui là, cette fois-ci, a quatre pôles, mais qui met en évidence une schématisation initiale, un problème, une question, suivie d'une explication, réponse avec une conclusion, évaluation. Ce qui serait peut-être plus proprement narratif dans ce cas-là, ça aurait peut-être d'intégrer encore un degré supplémentaire de réticence, comme dirait Barthes dans l'idée de code herméneutique entre le pourquoi et le comment, et le parce que. Mais finalement, cette séquence explicative prototypique pourrait simplement, et je pense que ça marcherait assez bien dans une analyse classique telle que la pratique Jean-Michel Adam, de dire qu'un roman, alors à ce moment-là, qui serait structuré par une séquence de type... ce que je l'appellerais par la curiosité, serait simplement un cas typique de poly, de structure en fait, sur plusieurs niveaux, dans lequel il y aurait une séquence explicative enchâssante à l'intérieur d'un récit. Et dans le papier que je vous ai donné, en fait, je voulais, mais je ne vais peut-être pas le faire, mais aussi citer deux petits extraits d'une nouvelle de Marcel Aimé que j'aime beaucoup, dans lequel on voit des gens qui font la queue devant, je pense, une boulangerie pendant la Deuxième Guerre et qui composent des micro-récits qui se racontent leur journée. Et dans ces deux micro-récits, on voit des exemples typiques de disons, alors, de séquences explicatives enchâssantes avec une structure narrative à l'intérieur, en fait, ce sont quand même des récits, mais qui seraient, en fait, peut-être là, par exemple, des exemples typiques pour moi de récits structurés par une mise en intrigue du sujet. Donc là, je peux juste les lire, vous les avez peut-être déjà lus, mais. Moi, dit une très vieille femme, je ne crois plus en Dieu. Hier soir, j'ai touché deux œufs, des vrais œufs. En rentrant chez moi, mon pied a manqué le trottoir. Je les ai cassés tous les deux. Je ne crois plus en Dieu. Donc là, on a l'exemple typique d'une exposition de prolapse, hein, plus ou moins, si on considère que c'est un récit, mais c'est un cas limite un peu. Je ne crois plus en Dieu, mais de manière énigmatique, pourquoi ? Ensuite, le début de quelque chose qui ressemble à une séquence narrative. J'ai touché deux œufs. En rentrant chez moi, mon pied a manqué le trottoir. Ça ressemble méchamment à un nœud d'un récit. Elle casse ses œufs. Sauf que là, on s'attendrait peut-être dans une séquence narrative à un dénouement du genre, je sais pas, du genre j'ai faim, ou bien du genre je vais voler un œuf à mon voisin, ou bien du genre je vais combattre l'occupant allemand pour trouver des œufs, je ne sais pas. Mais le fait est que là, je pense que l'effet dramatique est lié au fait que dans ce cas-là, on n'est pas dans un roman d'aventure, on est plutôt face à la tragédie de quelqu'un qui, quand il est face à une complication, ne trouve pas de résolution dans les limites d'un récit. C'est un récit qui ne peut pas se clore comme on s'attendrait à ce qu'un récit classique se clôture. Donc en même temps, c'est là la séquence explicative, ou alors la mise en intrigue du sujet qui prend le relais et puis qui structure le discours est complet parce que ce qui conclut, c'est « je ne crois plus en Dieu » parce qu'on a compris pourquoi maintenant. Donc on a la réponse à la question qu'on se posait au début. Et là, c'est aussi, enfin, il y a beaucoup de points qui sont pas du, par rapport auxquels je suis pas du tout sûr dans mon exposé, mais je voudrais notamment souligner celui-ci, l'idée que l'ordre naturel du récit est peut-être d'être anti-chronologique quand c'est le récit conversationnel. Et ben là, en fait, on voit bien que ça correspond un petit peu à cette structure qu'en avance Labeauf avec l'idée d'une anticipation du récit qui est donnée comme début de la séquence narrative, qu'on rencontre souvent dans les narrations conversationnelles, le « moi je ne crois plus en Dieu » ou bien le « moi je voudrais bien la fin du monde avant midi ». Mais en même temps, là, cette manière d'ouvrir la séquence narrative n'est pas une façon de détruire la tension conversationnelle, tension de lecture, mais au contraire de l'ouvrir de manière énigmatique, donc de structurer, de créer une forme de tension structurante, disons. Donc là, la question est de savoir si effectivement, pourtant l'exemple que j'ai donné, que je n'ai pas tout à fait inventé, mais enfin sur cette personne qui téléphonerait à un hôpital, c'est clair que là, on voit bien que dans ce type de conversation, enfin c'est très contextuel, mais dans ce type de conversation, l'idée de ne pas être chronologique est vraiment une forme d'éviter de rentrer dans un effet de tension. Donc là, pour moi, c'est un point très obscur, le fait de savoir si oui ou non le résumé du récit dans la formule introductive et de forme de réduire ou de créer ou de structurer le récit. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de... Oui, j'ai beaucoup de temps. Donc, sinon, j'aurais voulu peut-être terminer en citant aussi un auteur que je trouve très intéressant, qui s'appelle Bertrand Gervais, qui travaillait sur la lecture, qui a donc choisi une approche très... Donc lui-même étant canadien ou québécois, il est finalement, il écrit en français, mais il est quand même finalement beaucoup plus proche du milieu anglo-saxon que nous le sommes ici, peut-être. Et il a cette approche qui était de réfléchir sur les compétences endonarratives des lecteurs, c'est-à-dire tout ce qui permet aux lecteurs de comprendre un récit en se fondant sur ses connaissances, sa compréhension de l'action. Donc il utilise à la fois l'approche de la sémantique de l'action et celle de l'intelligence artificielle, puisqu'il utilise beaucoup les notions développées par Shank et Abelson. Et je trouve que ça donne des résultats assez efficaces. Disons que, en même temps, c'est assez intéressant parce que là, on voit qu'il présente ces deux attitudes de lecture qu'il définit d'un point de vue cognitif, soit parce que, par exemple, une action est représentée de telle manière qu'elle est incomplète parce que le schéma interactif qui représenterait donc les choses qu'on a besoin de savoir sur une action pour la comprendre sont volontairement énigmatisés. Du coup, c'est ce qu'il appelle la lecture, le mode ascendant de la lecture, où on essaye de reconstruire progressivement vers l'arrière. Soit alors on est pris dans le développement d'une action qui va vers un but, et lui, il définit essentiellement l'action narrative comme étant constituée de plans-actes, c'est-à-dire d'actes qui s'inscrivent dans un plan, et le plan étant la définition d'un but qui structure la lecture. Et donc là, quand on attend de savoir si le but va être atteint, on est dans un mouvement descendant de la lecture, dans un mode descendant. Donc là, c'est assez intéressant parce que, en même temps, il a tendance à vouloir mélanger les deux choses qui ne lui permettent pas de...